France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Comment écouter nos silences? Comment différencier un silence qui emprisonne de celui qui libère? Psychologue, clinicienne auprès d'enfants et d'adolescents, ainsi que psychanalyste, Laurence Joseph tente de comprendre les différents silences de nos vies, du silence de la contemplation à la libération de la parole sur les questions de violence sexuelle et d'inceste. Apprenons à écouter ces silences, les nôtres et ceux de la société. Bonsoir Laurence Joseph.
Bonsoir Quentin Laffaye.
Et vous faites paraître aux éditions Flammarion cet ouvrage intitulé « Nos silences, apprendre à les écouter ». Alors écoutons justement ces silences que nous allons partager. Neuf. Et 10, c'est long, 10 secondes de silence à la radio. Pourquoi c'est si long d'abord et au-delà, pourquoi cela peut provoquer une forme de gêne, Laurence Joseph, le silence, les silences qu'on ne choisit pas?
Oui, c'est long, 10 secondes de silence à 19h sur France Culture pour commencer notre rencontre. C'est long parce qu'on s'attend d'abord à commencer par la parole, quelques mots, bonsoir. Et là, on se dit, mais à quelle sauce je vais être mangée maintenant? Donc oui, le silence, ça peut engendrer de l'angoisse.
Je voudrais qu'on revienne d'abord sur le terme même, celui de silence, le mot, celui, ce qu'il signifie. Quelle est son étymologie, son histoire sémantique même?
Alors l'histoire sémantique du silence, c'est le latin. Siléo, qui nous amène dans une région de contemplation, être là, se poser tranquillement. C'est presque une modalité de l'être qui peut faire penser à la nature morte, à la nature contemplative.
C'est quelque chose qui a à voir le silence avec le mouvement ou c'est autrement quelque chose qui est totalement figé et qui fige ne serait-ce que la parole et les êtres?
Alors, c'est intéressant justement de le prendre comme ça parce que en latin, on disait par exemple du bourgeon qu'il silette avant de devenir une fleur ou de la lune qu'elle silette quand elle était décroissante. Donc, c'est là où déjà le silence nous apprend qu'il faut être curieux vis-à-vis de lui parce que dans ce moment où on croit que tout est calme, en fait, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer du côté de l'imperceptible. Mmh. Et c'est à nous d'être suffisamment attentifs pour le cartographier, l'apprendre et le décliner. Voilà.
Est-ce qu'on a tort ou raison d'opposer au silence la parole ou vous estimez vous-même que ce sont deux éléments complémentaires, absolument complémentaires même?
Oui, absolument complémentaires. Essayons d'imaginer nos journées sans silence. Sans ces temps de silence que nous, on va chercher, ou les silences qu'on nous impose. En fait, même là, dans ma respiration, quand je vous parle, le silence, c'est ce qui va rythmer ma parole. Donc, je pense que de l'un à l'autre, il y a une harmonie, des oppositions, et que c'est comme ça aussi qu'on signe notre voix et notre présence.
Vous écrivez d'ailleurs, le silence incarne ainsi cet entre-deux, un espace transitoire, un soupir dans le discours. Pourquoi un soupir?
J'ai trouvé que le soupir, c'était peut-être l'idée du trait d'union, parce que dans le soupir, il y a encore la présence du corps, mm-hmm. Il y a quelque chose de ma voix qui reste, qui est encore là, et pourtant je dis aucun mot. Donc j'ai trouvé que c'était l'entre-deux.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un homme qui a choisi de vivre dans le silence. C'est un moine trappiste. Il nous explique pourquoi il s'exprimait sur la RTS, c'était en 1966.
Notre monastère de Tamier, situé à une trentaine de kilomètres au sud d'Annecy, a été fondé en 1132 par Saint-Pierre de Tarentaise. Il appartient à l'ordre cistercien. Nous sommes connus sous le nom de trappistes, tout simplement parce que nous sommes issus d'un monastère qui s'appelait La Trappe. Nous passons la majeure partie de notre vie dans le silence. Il n'est interrompu que par nécessité. C'est à l'intérieur de ce silence que se fait notre quête de Dieu et que Dieu nous parle.
C'est peut-être, Laurence Joseph, une démarche qui est à l'opposé de toutes les valeurs érigées durant notre époque, ce choix du silence. Est-ce que vous-même, vous le comprenez? Je ne dis pas que vous le partageriez, mais est-ce que vous comprenez cette démarche du point de vue intellectuel?
Bien sûr, et je crois que c'est important, et j'ai essayé de l'expliquer dans le livre, qu'on n'oppose pas les silences entre eux. C'est-à-dire, je pense que même quand on va prendre la parole, par exemple, dans le cadre du MeToo, ça n'empêche pas qu'à d'autres temps de notre vie et à d'autres moments, on ait besoin justement de se border dans un silence plus intime qui peut être à la frontière du sacré, comme ce moine trappiste, et que le silence est à la frontière de beaucoup de régions. Et justement, quand j'écoute ce moine, je parle des Chartreux dans le livre, c'est toujours avec beaucoup d'émotion d'imaginer toutes ces vies plongées dans le silence et qui ouvrent en même temps un espace d'écoute intérieure, un lien avec des textes sacrés ici bien sûr. Et le silence, c'est aussi un temps de liaison avec nos textes intérieurs.
Je voudrais par ailleurs qu'on lève une fausse idée, l'idée selon laquelle seule la parole est féconde. Il y a aussi dans le silence une capacité à produire, à provoquer, à créer, à enchaîner quelque chose. Il faut nous expliquer justement juste comment le silence aussi peut être fécond.
Oui, je pense qu'il y a dans certains de nos silences intérieurs, et d'ailleurs si on pense aux poètes, aux écrivains, à nous, chercheurs, et aux psys aussi bien sûr, les mots sont des enfants du silence. C'est-à-dire que sans ces temps de silence, ces temps de flou, ces temps qui s'y lèdent justement, il n'y a aucun mot qui va pouvoir naître. Parce qu'on va être dans des lignes extrêmement rigides à l'intérieur de nous, et le silence c'est un temps du flou, où justement peuvent se dessiner les mots au fur et à mesure.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, les silences individuels, ceux qu'on évoque d'ailleurs depuis le début de cet entretien, où vous aimez, vous appréciez aussi approcher, effleurer les silences collectifs? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus et comment ils se forment par ailleurs?
C'est vrai que les silences individuels dans cette bordure dont j'essayais de parler me touchent beaucoup, mais je suis aussi extrêmement sensible comme citoyenne et comme avec l'enfance que j'ai eue à la question des minutes de silence, où je trouve toujours que c'est un temps de liaison entre nous tous. Et ces minutes de silence, je pense que ce sont des temps citoyens très forts dans lesquels très tôt un enfant peut réaliser qu'est-ce que peuvent être certains idéaux qu'il dépasse. Donc c'est aussi une transition vers l'universel.
Alors tentons ensemble, Laurent-Joseph, de décortiquer ces silences, de savoir de quoi ils sont faits et ce qu'ils signifient. Je voudrais pour cela que vous nous parliez de deux personnages qui sont au centre de Rome. Angerona d'abord, Tacita ensuite. On commence par Angerona. Qui est-elle? Que raconte-t-elle? Et quel lien peut-on établir entre ce personnage et le silence d'une façon générale?
Oui, alors c'est vrai que quand j'ai commencé à enquêter sur les silences, j'ai très vite rencontré ces deux muses. Donc la première s'appelle donc Angerona. Elle est fêtée au solstice d'hiver, le 21 décembre, lorsque les jours vont commencer à rallonger. Et on la connaît dans l'imaginaire, dans la représentation, elle porte un baillon sur la bouche. Angerona, c'est le choix du silence. C'est le silence volontaire. Elle se rapproche pour moi de l'héroïne du silence de la mer. C'est-à-dire que c'est celle qui choisira de ne pas trahir nos secrets, qui choisira de ne pas trahir les mots qu'on lui confie et qui sera une gardienne de Rome.
Tacita.
Et Tacita, elle... Alors, ce qui est intéressant, c'est que Tacita, c'est son deuxième nom. Son premier nom, c'était Lala, qui signifie le bavardage. Et Tacita a voulu protéger sa sœur, Juturne, du viol dont elle allait être l'objet par Jupiter. Et pour se venger, Jupiter décida de lui couper la langue. Et de lui avoir coupé la langue, elle perdit évidemment son nom de Lala pour se faire nommer Tacita, qui veut dire tais-toi, ou plutôt t'aurais mieux fait de te taire. Et donc, ensuite, une fois que la langue est coupée, Mercure, qui doit la conduire aux Hadès, la viole. Et on sait que l'Hadès, c'est le temps circulaire. Et c'est donc ce temps circulaire qui représente bien le temps du trauma, en fait, un temps dont on ne sort pas. Et Tacita, celle à qui on coupe la langue, pour moi, elle représente vraiment le silence contraint et le silence des victimes. C'est pour ça que j'ai voulu choisir ces deux muses, pour qu'on ne confonde pas les régions du silence et qu'on comprenne que le silence, c'est beaucoup de choses à la fois.
Alors parlons justement d'Angerona, la première muse, celle peut-être du silence choisi. Elle est liée à une autre injonction, celle de souffrir en silence. Qu'est-ce que cette expression charrie justement comme imaginaire? Comment est-ce que vous l'analysez, vous?
Ah, je l'entends d'abord comme serre les dents. Ça va passer, ça ira mieux après. Souffre en silence, je pense aussi évidemment à ce qu'on dit souvent aux femmes, souffre en silence. Je pense qu'il y a beaucoup cette idée que le silence, c'est quelque chose qui va aussi nous permettre de dépasser certains obstacles, de tenir. C'est la persévérance, c'est l'endurance. Pour moi, Angerona, c'est vraiment la figure des résistants. Et j'ai beaucoup pensé à la résistance et à tous les peuples en résistance, qui justement endurent en silence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune action de l'autre côté, et que parfois on endure en silence pour une noble cause.
Vous avez dit également dans Girona que c'était un silence choisi. Pourquoi choisir le silence sans aller jusqu'aux moines trappistes qui décident de dédier leur vie pratiquement au silence, ou en tout cas de choisir entièrement, pleinement le silence? Pourquoi certaines personnes sont plus taiseuses que d'autres? Pourquoi certaines personnes prennent le parti du silence plus que de la parole? C'est pas mon cas alors, en l'occurrence, puisque ma question est longue.
Non, je pense que parfois on choisit le silence contre le bavardage. Je trouve que c'est une attitude plutôt précieuse. C'est vrai que je consacre un long moment du livre sur les taiseux, parce que je crois que les taiseux sont des adorateurs du langage, et qu'il y a quelque chose dans leur lien au langage, dans la force qu'ils donnent au pouvoir de chaque mot. Et le silence, justement, c'est leur négociation interne. Quand est-ce qu'ils vont dire ce mot, qu'ils vont offrir ce mot? Et j'aime toujours, quand on réfléchit justement à cette question du taiseux, toujours se demander quel texte intérieur les anime et quel texte extérieur ils vont donner à leurs interlocuteurs. Il ne faut pas croire que le texte intérieur des taiseux est faible. Au contraire, il est très puissant.
Vous citez Laurence-Joseph Dumézil à plusieurs reprises. Il y a une citation en particulier qui a retenu notre attention dans l'équipe de questions du soir. Il dit « Il y a une efficacité magique que n'a pas la parole prononcée. Une efficacité magique, donc, du silence. Quelle est cette efficacité ? C'est même troublant. Ce terme-là, ce terme choisi, celui d'efficacité. »
Je suis d'accord avec vous, il m'a vraiment retenu quand j'étudiais les textes de Dumézil. Cette efficacité, on la lie aussi à la mythologie, avec cette idée que le silence pouvait toujours sauver le soleil, ce que je trouve assez magnifique. Mmh. Et en Girona, justement, c'est celle qui, au moment où on l'a faite, les jours vont s'allonger, le soleil va reprendre son pouvoir petit à petit et nous sortir de la brume. L'efficacité du silence, on peut la transposer de manière métaphorique en disant que c'est elle qui va permettre de produire les mots, qui va venir ensuite dans les textes nous éclairer, nous guider. Et donc c'est pour ça que je me demandais dans le livre si dans le mythe de la caverne, on sortait pas aussi en silence de la caverne, parce que le silence allait être un facteur de vérité, un facteur de lumière et un facteur de production de sens, de nouvelles possibilités du sens.
Le mythe de la caverne qui est exposé dans La République de Platon. Est-ce que le silence peut aussi permettre de se protéger? Est-ce qu'on peut prendre le parti du silence parce qu'on a des choses, non pas à dissimuler, mais justement à préserver, à protéger?
Oui, bien sûr, là, on se met à fréquenter une nouvelle région du silence qui est celle de la protection. En Girona, protège, mais nous, chacun comme individu, combien de honte avons-nous tues, justement, pour ne pas dire ce qui nous était arrivé, pour ne pas dévoiler qu'à nous aussi, il est arrivé cette chose-là. Et le silence nous protège, oui, comme un tissu, et c'est à chaque individu, à un moment de sa vie, de choisir si, il se dévoile.
Il y a peut-être un point que vous abordez moins que les autres, Laurence Joseph, c'est la violence du silence. On prend parfois aussi le parti du silence par mépris, par contestation, parce qu'on refuse à quelqu'un d'être entendu aussi. On marque un silence peut-être pour lui renvoyer une forme de violence. Ça peut être violent, un silence.
Ça peut être très violent, et on citait tout à l'heure Vercors avec le silence de la mer, et c'est vrai que l'héroïne du silence de la mer ne fera pas l'obol d'un mot aux soldats allemands qui occupent sa demeure. Mais là, on le prenait du côté de l'héroïne du livre. Mais c'est vrai, évidemment, que le silence, on va choisir souvent de penser une perturbation de l'autre qui n'a pas pu nous répondre, qui n'a pas pu surgir, qui n'a pas pu nous reconnaître à un moment où on avait infiniment besoin de reconnaissance. Et le silence peut être une immense persécution, oui, et quelque chose qui nous réifie, qui nous chosifie et qui nous met plus bactère, oui, qui nous humilie.
Vous le trouvez véritablement violent, le silence du silence de la mer, justement, de Vercors? Moi, je le trouve pas tellement violent, je le trouve justement très protecteur d'abord, et il me semble, d'ailleurs, c'est vous qui le dites, c'est vous qui l'écrivez, c'est d'abord et avant tout un silence éthique. Il faut nous parler de ce silence éthique.
Oui, c'est un silence éthique parce que entrer en conversation avec l'occupant, ça serait peut-être lui accorder un statut d'humain, un statut d'autrui, en fait. Et elle lui refuse cette altérité. Je suis d'accord avec vous que dans le livre, on ne sent pas de violence. Mais en même temps, on n'a pas le point de vue du soldat allemand. Lui, qu'est-ce qu'il ressent à son monologue, traverser ce monologue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il ressent.
Il faut aussi nous expliquer peut-être ce qu'est le silence comme tabou. Pourquoi, comment le silence est parfois même l'illustration, l'expression plus générale d'un tabou qui traverse la société ou plus largement, ou plus minimalement même une famille.
Oui, bien sûr, là, la question c'est celle de la loi du silence. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas été touché dans sa généalogie par cette question de la loi du silence. On se demande pourquoi on veut passer sous silence justement les membres de notre famille qui ont été soit malades, soit des traîtres. On voit en ce moment avec le livre de Vanessa Springora dans Patronyme justement comment aujourd'hui, et je crois que c'est une des quêtes de la littérature, justement exhumer ces silhouettes qu'on a voulu passer sous silence et que tous on porte et dont on a les ombres finalement autour de nous.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un homme qui a choisi de raconter une part de sa vie en silence. Je pense au mime Marceau. Il s'exprimait sur TV5 Monde. C'est plutôt une rediffusion diffusée sur TV5 Monde.
J'aime beaucoup la parole. La parole est très importante. Mais le silence, c'est aussi, ça n'existe pas. Le silence, c'est une musique silencieuse, mais avec le poids de l'âme. Alors c'est ça qui est important. L'art du mime va apporter au théâtre une force dynamique avec le silence et la musique, bien entendu. Mais on dit que la musique est faite de silence et qu'elle est faite avec les sons. Eh bien, c'est ce que nous employons. Mais tout d'abord, nous partons avec le silence total. Et ensuite, on marie silence et musique.
Dans quelle région du silence se situe le mime Marceau, Laurence Joseph ?
Je dirais dans l'appel au visible.
Je
trouve justement que le fait qu'il y ait du silence, ça va amplifier nos autres sens, en fait. Ça va aiguiser notre sensorialité. Et je crois que là, ça va donner à notre visibilité, à notre vision, quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est vrai que dans les gestes du mime Marceau, on va puiser aussi peut-être dans quelque chose d'anthropologique, avec plus de force, plus de bonheur aussi.
Je voudrais qu'on en revienne à Tacita, l'autre muse que vous nous avez présentée tout à l'heure. Là, on est dans le registre, dans la région du silence subi, du silence involontaire, du silence contraint. En quoi ce mythe-là raconte aussi peut-être le fait que les femmes ont été très longtemps dans l'histoire, toujours autant sans doute, contraintes au silence ?
Oui, un mot justement par rapport au fait de devoir chercher ces muses, justement. En Gérona, Tacita, avant d'avoir envie de travailler sur le silence, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve ça très important qu'on puisse justement parler, enseigner, transmettre aux filles plus jeunes ces légendes, dont celle de Tacita, pour montrer à quel point, si on veut protéger une autre femme, on peut nous couper la langue. Et aujourd'hui, en 2025, en France, ça n'existe pas de la même manière que dans d'autres pays actuellement et d'autres civilisations. Et donc, il faut se rendre compte que des Tacita, en fait, il y en a beaucoup en ce moment qui sont en danger.
J'aimerais vous faire entendre la voix d'une femme, justement, qui a choisi de prendre la parole publiquement, de la prendre vivement et fortement. Judith Godrèche, c'était lors de la 49e cérémonie des Césars, le 23 février 2024.
Dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. Silence, moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez. À une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe. À un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans.
C'est troublant, Laurence Joseph, la façon dont Judith Godrèche parle du silence. Elle dit que le silence a été un moteur. On aurait pu penser, a priori, si on ne l'avait pas écouté, si on l'avait mal écouté, que le silence l'aurait enfermé et enfermé une large part de sa vie.
Oui, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il faut tout un monde pour que le silence puisse exister et qu'il faut tout un autre monde pour briser ce silence. C'est très émouvant, je trouve, de l'entendre parce que on sent qu'elle est à la frontière entre deux mondes à ce moment-là. C'est pas rien, cette prise de parole. Et je suis toujours, je suis assez émue de la réentendre. Elle est en train de montrer le prix que c'est de briser un silence, ce qu'il faut de courage pour le faire. Et en même temps, elle nous explique ce qu'est l'omerta. Et cette omerta qui dure depuis des années et des années. Et c'est vrai que dans le livre, on parle de Tacita, comme on est en train de le faire ensemble. Mmh. Et il y a une autre muse que j'ai convoquée, une autre encore dont on parle pas assez, qui s'appelle Philomèle, à qui il est arrivé à peu près la même chose que Tacita, sauf
qu'on trouve dans les Métamorphoses d'Ovide.
Exactement, qu'on trouve dans les Métamorphoses d'Ovide. Et qui, elle, a pu réaliser une tapisserie, alors qu'elle était enfermée. Et cette tapisserie, elle a pu la faire porter à sa sœur, Procné. Procné, en voyant cette tapisserie, comprend ce qu'il est arrivé à sa sœur. Et je trouve que là, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la sortie des silences, ce qu'on observe actuellement, c'est la possibilité d'une fabrique de nouveaux récits. Et on peut tout autant penser au collage aussi, qui éveille par rapport au féminicide. Et je trouve que voilà, ces prises de parole, les collages, on est en train en ce moment de sortir de cette omerta grâce à la fabrique de nouveaux récits qui interroge sur la densité des silences.
Je vous cite, Laurence Joseph, extrait de votre livre intitulé « Nos silences, apprendre à les écouter ». Vous écrivez « Mais comprenons aussi combien la langue des femmes peut, à l'intérieur des silences, imposer, créer une langue puissante, habile, furtive. Le bouclier abritant l'arme, il semble que les femmes en soient venues à créer leur langage, celui d'une sororité, peut-être d'origine défensif. Celui-ci a très rapidement pris les couleurs de la ruse, de la puissance, de la solidarité. » Fin de citation. Expliquez-nous justement ce que vous écrivez et expliquer ici.
Oui, c'est dans la suite de ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la fabrique et à la tapisserie. C'est vrai que j'ai été très sensible au fonctionnement, à la nature du hashtag MeToo en me concentrant justement sur le hashtag. Je me suis dit que ce hashtag, c'était ce qui allait permettre à chacune, parce que c'était quelque chose qui ne disait rien, le hashtag, c'était un mime quasiment justement. C'était... Et je pense que chaque femme qui a participé à ce mouvement... Ça a été facilité justement par cette ruse, cette invention du hashtag MeToo.
L'anthropologue David Le Breton, il s'exprimait dans les nuits de France Culture, rediffusé là aussi dans une émission intitulée « L'apprentissage du silence ».
Moi, j'ai jamais été mal à l'aise dans le silence. Par rapport à mon adolescence, j'aurais pas de moment fort à vous évoquer. C'est plutôt après, quand j'ai commencé à être étudiant, que les choses ont... m'ont vraiment frappé, parce que j'ai fait énormément de dynamiques de groupe quand j'étais étudiant. Donc, une dynamique de groupe démarre souvent par 2 heures, 3 heures, 4 heures de silence. Et souvent, le silence est rompu. Enfin, ça avait été très très fort dans mon expérience d'étudiant. Le silence est rompu par quelqu'un qui éclate soudain en sanglots et qui dit « Je ne supporte plus ce silence, ça m'évoque la mort de quelqu'un. » Et à ce moment-là, il se passe à l'intérieur du groupe une espèce de symbiose affective énorme. Et j'ai compris à ce moment-là que le silence était aussi souvent lié pour les autres à la mort, à la destruction de la parole, à la destruction du lien social.
Le paroxysme du silence, Laurent Joseph, c'est la mort ou c'est même avant cela encore, si l'on fait un pas en arrière, le deuil et le moment du deuil?
Oui, en effet, je crois que c'est quelque chose qui affleure dans pas mal de pages du livre. Ce moment qu'on traverse tous, qui est celui où on n'entendra plus la voix de celui qui attend, ou de celle qui a tant compté pour nous. Et ce temps du deuil, c'est un moment où on se doit se déprendre de cette voix qui nous a élevés, qui nous a abrités, qui nous a consolés, et il va falloir faire sans cette voix.
Ouais. Et pour réagir à ce que disait justement David Le Breton, quand on associe silence et mort, est-ce que c'est pour cela également que les silences souvent effraient parce qu'ils gênent, parce qu'ils nous rappelle que la mort est présente et proche?
Oui, les morts avant, on les appelait les silentes. Et il y a certainement quelque chose dans l'absence de voix, dans le fait de ne pas se sentir interpellé, qui peut être l'ombre de cette mort, bien sûr. Ce moment où justement l'autre ne peut plus nous appeler.
D'un point de vue plus personnel peut-être, Laurent Joseph, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question du silence, des silences individuels et collectifs?
Je pense justement que c'est des raisons singulières, comme celle du deuil de ma grand-mère, dont je parle dans le livre, ce moment où je ne peux plus entendre sa voix quand je me rends chez elle, et cette forme de désynchronisation irréversible, où je suis chez elle, mais sans elle. Et pour les silences collectifs, je pense en effet que de recevoir beaucoup de victimes de traumatismes et d'être... Alors écoute, oui, depuis 20 ans maintenant, c'est quelque chose où Je fais l'expérience de leur silence, en fait, en les respectant, en comprenant que parfois il faut plusieurs minutes de silence avant qu'une phrase puisse surgir, qui n'est pas forcément celle qu'on attend, qui serait belle et diachronique, mais au contraire, ça reste parcellaire. Mais dans certains moments, c'est quelque chose qui, pour eux, cette écoute, le fait de les croire et de n'attendre rien de spécial, de plus que le mot qui vient, c'est une expérience aussi qui, moi, m'a transformée et qui m'a appris à considérer les silences complètement autrement.
Merci beaucoup, Laurence Joseph, d'être venue parler, d'avoir rompu le silence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nos silences, apprendre à les écouter. Merci d'être venue à France Culture ce soir.
Merci beaucoup, Quentin Lafay.